OK, on va commencer notre 41e leçon dans notre série sur l'histoire de l'Église. Ce soir, on va regarder la réforme en Angleterre. Alors, jusqu'ici, on avait étudié les progrès, les difficultés de la réforme dans les pays de langue allemande, de langue française et de Suisse romande. Alors, aujourd'hui, la semaine dernière, on avait étudié l'histoire de la contre-réforme catholique et du Concile de Trente. Aujourd'hui, on porte notre attention sur la réforme en Angleterre. Deux circonstances en apparence contradictoires servirent dans la main de Dieu à l'avènement de la réforme en Angleterre. La fidélité des Lollards et la position prise par le roi Henri VIII vis-à-vis du Saint-Siège. On a vu dans nos leçons précédentes comment, au 14e siècle déjà, Wycliffe arriva à connaître le salut par la grâce et comment le flambeau qu'il avait allumé fut entretenu et transmis à la postérité par d'humbles chrétiens qui se recrutaient presque tous parmi les petits de ce monde. Leur témoignage contribua à ébranler chez nombre d'Anglais leur confiance dans les doctrines pontificales. Il diminua sérieusement l'influence de la papauté et ouvrit les voies au grand mouvement des esprits du 16e siècle. Mais Rome avait l'œil ouvert et plus d'un de ses serviteurs du Seigneur, desquels le monde n'était pas digne, comme on peut le lire dans Hébreux chapitre 11, verset 38, paya de sa vie son attachement aux vérités qu'il avait apprises. Au milieu du 15e siècle, une guerre civile, celle des Deux Roses, déchira l'Angleterre et entrava gravement l'essor de la vie artistique et intellectuelle. Le commerce se trouva réduit à sa plus simple expression. L'ignorance régnait sur tout le pays et, sauf parmi les Lollards, tout vestige de piété sincère semblait avoir disparu. C'est dans ces conditions que Henri VIII monta sur le trône. Destiné par son père à la carrière ecclésiastique, il avait fait de fortes études et garda toujours un goût prononcé pour les questions théologiques. Les humanistes saluèrent avec joie son avènement. Erasme, surtout, se répandit en éloges sur les talents dont Dieu avait richement comblé ce prince, mais qu'il employa de façon déplorable. Toutefois, le savant hollandais changea bientôt de ton. Pendant un séjour qu'il fit en Angleterre, il n'avait pas manqué l'occasion de lancer des sarcasmes cinglants contre les moines de ce pays, auxquels il ne reconnaissait que deux caractères distinctifs, leur gloutonnerie et leur ignorance. Devenu par conséquent l'objet de la haine du clergé, il jugea bon de partir directement pour Bâle, où il publia très peu après la première édition de son Nouveau Testament grec. À peine sorti de presse, quelques exemplaires expédiés à Oxford et à Cambridge y rencontrèrent un accueil enthousiaste. Luther n'avait pas encore affiché ses thèses à la porte de la cathédrale de Wittenberg, que l'Angleterre possédait déjà la parole divine, le pur évangile de Jésus-Christ. Un de ces nouveaux testaments tomba entre les mains d'un étudiant de l'Université d'Oxford, William Tyndale. Il le lut avec avidité, fut converti et n'eut plus dès lors qu'une pensée, celle de communiquer à d'autres le trésor qu'il possédait. Il donna dans ce but une série de conférences, puis se mit à traduire en anglais la Bible entière. Ne pouvant se livrer à ce gros travail en Angleterre avec tout le recueillement voulu, à cause de l'agitation qui régnait alors dans le pays, il se rendit à Anvers, où il publia le Nouveau Testament d'abord, puis l'Ancien. Cette traduction fit rapidement son chemin dans les demeures des nobles comme dans celles des humbles. Tyndale subit plus tard le supplice du feu, mais son nom demeurera toujours lié à l'établissement de la réforme en Angleterre. Comme l'a fait remarquer Merle d'Aubigné, le grand historien de la réforme, celle-ci en Angleterre est due essentiellement à l'action de la parole de Dieu, plus peut-être que dans aucun autre pays. On n'y trouve pas de grande individualité comme en Allemagne, en Suisse, en France, où l'on rencontre un Luther, un Zwingli, un Calvin, mais les saintes écritures s'y répandent abondamment. C'est la parole du Dieu vivant cette puissance invisible qui a répandu la lumière dans les îles britanniques dès l'année 1517 et plus encore à partir de 1526. Le christianisme anglo-saxon se distingue par son caractère nettement biblique et c'est ce qui l'a conduit à être plus que tout autre l'instrument dirigé par Dieu pour provoquer la diffusion des oracles divins dans le monde entier. Déjà, tout au but de son règne, Henri VIII se posa en protecteur intrépide de l'Église romaine. Indigné des virulentes attaques de Luther contre le catholicisme, il rédigea à son adresse un pamphlet grossier qui lui valut, de la part du pape Léon X, le titre de « défenseur de la foi ». Mais au bout de quelques années, ses relations cordiales s'altérèrent complètement. Avant de monter sur le trône, Henri VIII avait épousé Catherine d'Aragon, veuve de son frère et tante de Charles Quint. Au bout de 20 ans de mariage, le roi prétendit avoir des scrupules sur la légitimité de cette union. Le fait est qu'une autre femme, Anne Boleyn, avait attiré ses regards. Tout son rêve était de l'épouser. Pour cela, il devait demander au pape de défaire ce qu'un autre pape avait permis. Il interrogea donc les docteurs de l'Église. L'un d'eux, Cranmer, déclara que le roi n'avait pas le droit de passer outre aux ordonnances de Dieu, que son union avec la veuve de son frère était illicite, qu'il fallait au surplus consulter sur la question les principales universités d'Europe. Presque toutes se prononcèrent dans le même sens que Cranmer. La cour de Rome délibérait de son côté, très embarrassée. Si elle se prononçait pour le divorce, elle s'aliénait Charles Quint, neveu de Catherine. Si elle refusait, elle mécontentait Henri VIII. Pour se tirer d'affaire, le pape cita le roi à comparaître devant lui. Henri refusa et, après 6 ans de débat, il rompit avec Rome et répudia Catherine pour épouser Anne Boleyn. Puis, le Parlement le proclama chef suprême de l'Église en Angleterre. Le clergé ne savait pas quelle attitude prendre. À reconnaître l'usurpation du souverain, il renonçait fatalement à toute relation avec Rome. Mais le tempérament despotique de Henri VIII n'admettait aucune tergiversation. Au clergé de se soumettre ou de se démettre. Pour atténuer la fâcheuse impression causée par ses atermoiements et reconquérir les bonnes grâces du vindicatif monarque, les prélats prirent eux-mêmes l'initiative de mesures dirigées contre quiconque manifesterait quelque velléité d'indépendance vis-à-vis de la volonté royale. Cette décision visait tout d'abord les Lollards et ceux qui adhéraient à leur doctrine. Cranmer fit tout ce qu'il put pour enrayer les actes de violence. Henri VIII l'avait désigné en qualité d'archevêque de Canterbury, la plus haute dignité ecclésiastique du royaume, pour le récompenser du service qu'il lui avait rendu au moment de son divorce. Peu avide d'honneur, Cranmer accepta cette charge dans l'espoir d'en profiter pour faire triompher les principes qui lui étaient chers. Il déclara qu'il n'admettrait l'autorité du pape qu'autant qu'elle ne serait pas contraire à la parole de Dieu et qu'il lui serait permis de combattre les erreurs pontificales chaque fois que l'occasion s'en présenterait. D'autre part, il introduisit une traduction anglaise de la Bible et l'usage de la langue du pays dans le culte. Il alla même jusqu'à exiger qu'un exemplaire de la parole de Dieu fût déposé dans chaque église du royaume. Il expulsa un certain nombre de prêtres dont la conduite causait des scandales. Mais sa timidité l'empêchait d'afficher une attitude décidée du côté où il savait pourtant être la vérité. Cependant, avant de s'en prendre à ceux qu'il qualifiait d'hérétiques, le roi ordonna la suppression de tous les monastères d'Angleterre comme foyer des plus grossières impostures. C'était déblayer le terrain sur lequel, sans que Henri s'en doutât, l'édifice de la Réforme devait s'établir. Comme on lit dans Proverbe 21, verset 1, « Le cœur d'un roi dans la main de l'Éternel est des ruisseaux d'eau, Il l'incline à tout ce qui lui plaît. Mais tout en fermant ses maisons, le roi voulut élever une barrière contre l'invasion des doctrines évangéliques. Dans ce but, une commission de prélats reçut pour mission le soin de rédiger un symbole qui devint loi de l'État. La commission se déclara incompétente. Là-dessus, le roi dressa lui-même le formulaire en 6 articles qu'on a dénommé le statut du sang. Il prononçait la condamnation à mort de quiconque n'admettait pas en plein la doctrine de la substantiation, la confession auriculaire, les vœux de célibat pour le clergé. C'était, somme toute, la reproduction complète des croyances romaines, moins la reconnaissance du pape comme chef de l'Église. Le Parlement l'adopta. Cranmer fit une opposition énergique, mais sans succès. Il ne réussit pas mieux lorsqu'il pria Henri VIII de réserver une partie des biens confisqués au couvent en vue de la fondation d'hôpitaux pour les pauvres. Les conséquences ne se firent pas attendre. Le roi montra le vrai fond de son caractère, celui d'un tyran cruel et sans scrupule aucun. La moindre résistance entraînait la mort. Il fit pendre de fervents catholiques qui n'avaient pas commis d'autres crimes, sinon celui de mettre en doute ses droits à la suprématie tant religieuse que politique. Quiconque était simplement suspect d'hérésie subissait naturellement le même sort. Et pourtant, la version de Tyndale circulait malgré le martyre infligé à son auteur. Bien des yeux s'ouvraient à la lumière. Les foules accouraient dans les églises afin d'entendre lire la parole de Dieu. Cranmer y fit même enlever certaines images favorites dont on faisait un abus trop criant. Néanmoins, la persécution sévissait sans pitié avec toutes sortes de raffinements de cruauté. Le roi se plongeait toujours plus dans un bourbier d'ignominie où il s'était laissé entraîner. Sa vie privée est un tissu d'abomination. Il épousa successivement 6 femmes, dont il fit décapiter 2. Il divorça avec 2 autres. Une seule mourut de mort naturelle. La 6e lui survécut. Mais toutes ces turpitudes, tous ces malheurs aboutissaient à fin contraire des intentions du monarque. Du sang des victimes jaillissait une lumière intense. La vérité faisait des progrès d'autant plus rapides qu'on s'évertuait à l'entraver. Dieu se servit de ces circonstances atroces pour amener à lui un grand peuple. On attribue à Henri VIII la mort de 72 000 personnes. Il en résulta tout simplement, après de nouvelles et cruelles épreuves, il est vrai, le triomphe des principes que, dans son aveuglement, il avait cru pouvoir étouffer. Henri VIII laissait un fils et 2 filles. Tous 3 furent successivement appelés au trône. Édouard VI n'avait que 10 ans à la mort de son père. Quoiqu'il vit dans une cour corrompue et entouré de catholiques, le jeune prince manifesta de bonne heure son aversion pour certaines pratiques romaines et sa prédilection pour les prédications évangéliques. Il avait souffert en silence à la vue des cruautés commises contre des sujets paisibles dont le seul crime consistait à suivre les enseignements de la parole de Dieu. Un de ses oncles maternels, chrétien décidé, favorisa les bonnes dispositions d'Édouard et, à l'avènement de ce dernier, parvint à se faire investir d'une sorte de protectorat. Grâce à lui, les persécutions subirent un temps d'arrêt. Les chrétiens détenus furent élargis. On abolit les terribles 6 articles. Nombre d'exilés pour cause de religion rentrèrent en Angleterre. Lors du couronnement du nouveau roi, la coutume voulait qu'on portât devant lui, au moment où il quittait la cathédrale de Westminster pour regagner son palais, 3 grandes épées, emblème des 3 parties dont se composait son royaume. Avant de sortir, Édouard fit remarquer qu'il manquait une quatrième épée. Pourquoi donc? Laquelle? Demandèrent les courtisans qui l'entouraient. La Bible, répondit le jeune souverain Et il ajouta, en citant Éphésiens 6, 17, « La parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Nous devons la préférer en tout point aux trois autres. C'est elle qui doit nous gouverner. Sans elle, nous ne sommes rien du tout. Celui qui prétend régir ses états sans elle ne mérite pas le titre de ministre de Dieu ni de roi. » On s'empressa d'obéir à l'ordre royal. Édouard prenait son plaisir à lire les Saintes Écritures. À l'âge de 14 ans, il écrivit de sa propre main un recueil de passages condamnant l'idolâtrie et en particulier le culte des images. Sous son règne, la réforme fit de rapides progrès. Son protecteur correspondait avec Calvin sur les conseils duquel il fit de l'Angleterre un vrai refuge où de nombreux proscrits trouvèrent un bienveillant accueil. C'est à ce propos que Calvin lui écrivit en 1548. Et il écrivait les phrases suivantes. « Nous avons tous à rendre grâce à notre Dieu et Père de ce qu'il s'est servi de vous en œuvre tant excellente que de remettre au-dessus la pureté et droite règle de son service en Angleterre par votre moyen et faire que la doctrine du salut y soit fidèlement publiée pour tous ceux qui voudront l'écouter. De ce qu'il vous a tenu la main forte en bénissant tous vos conseils et labeurs pour les faire prospérer. Il lui recommande de faire enseigner au peuple la pure et saine doctrine, d'extirper les abus et de corriger soigneusement les vices et de tenir la main à ce que les scandales et dissolutions n'aient point la vogue tellement que le nom de Dieu soit blasphémé. » Plus tard, il écrivait à Édouard VI, à qui il dédiait plusieurs livres. « Il y a des choses indifférentes qu'on peut licitement souffrir, mais il nous faut toujours garder cette règle qu'il y ait sobriété et mesure aux cérémonies, en vue que la clarté de l'Évangile n'en soit point obscurcie, comme si nous étions encore sous les ombres de la loi. » Or, il y a des abus manifestes qui ne sont pas à supporter, comme de prier pour les trépassés, comme de mettre en avant à Dieu l'intercession des saints en nos prières, comme de les adjoindre à Dieu en jurant. Je ne doute pas, sire, que vous ne soyez averti que ce sont autant de corruptions de la vraie chrétienté. Je vous supplie, au nom de Dieu, qu'il vous plaise à y tenir la main, à ce que le tout soit réduit à sa droite intégrité. » Alors ici, dans le texte, quand on voit l'étoile, c'est que Calvin faisait probablement référence à l'organisation de l'Église anglicane qui était en train de prendre un peu la forme du formalisme catholique. Alors on regrette de ne pas trouver sous la plume du réformateur des conseils de mansuétude, de tolérance envers les égarés. La tolérance n'était pas de ce siècle-là. L'idée de l'unité, en religion comme en politique, primait tout et ouvrait la voie aux persécutions. Il a fallu de douloureuses expériences en Angleterre et ailleurs pour apprendre qu'on ne peut pas pratiquer la religion de l'État sans pour cela être ennemi de l'État. Alors, chose pourtant encore exceptionnelle à cette époque, Édouard accordait aux protestants étrangers résidant à Londres la permission d'ériger un temple à leur usage. Considérant que c'est l'office d'un prince chrétien, disait-il, pour bien administrer son royaume, de pourvoir à la religion et aux malheureux affligés et bannis à cause d'elle, nous faisons savoir que, ayant pitié de la condition de ceux qui, depuis assez longtemps, demeurent dans notre royaume et y viennent journellement, de notre grâce spéciale, ordonnons qu'il y ait dans notre cité de Londres un temple appelé le Temple du Seigneur Jésus, où l'Assemblée des Allemands et des autres étrangers puissent se tenir et se célébrer, dans le but que parmi les ministres de leur Église, le Saint-Évangile soit interprété purement. Cranmer avait la main haute dans le gouvernement et ne craignait plus maintenant d'afficher sa fidélité aux principes révélés dans la parole de Dieu. Il supprima les lois arbitraires édictées par Henri VIII, envoya partout des prédicateurs zélés de l'Évangile, fit répandre la Bible encore plus largement qu'auparavant, autorisa le mariage des prêtres et la scène devait être distribuée sous les deux espèces. Malheureusement, vis-à-vis de ceux qui ne partageaient pas ses idées, Cranmer se laissait aller à l'esprit du temps, oubliant cette exhortation de Paul à Timothée. « Convainc, reprend, exhorte avec toute longanimité et doctrine », comme dans 2 Timothée 4, chapitre 4, verset 2. Il demandait souvent au roi des sentences de mort contre les rebelles à la réforme. Le pieux souverain, trop expérimenté pour lui résister, signait en soupirant et ajoutait, car il se sentait la conscience chargée, « Si je fais le mal, vous en serez responsable. » Et il signait. Mais le jeune roi, dont les enfants de Dieu étaient en droit d'attendre de grandes choses, tomba gravement malade au bout de 6 ans de règne. Les soins les plus dévoués ne purent le sauver. Peu avant d'expirer, il adressa à haute voix au Seigneur une fervente prière dont on a conservé quelques fragments. « Seigneur Dieu, s'écria-t-il, délivre-moi de cette misérable vie et reçois-moi dans les demeures éternelles. Toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. Seigneur, je te remets mon esprit. Tu sais combien ce serait une chose heureuse pour moi que d'être auprès de toi. Mais à cause de tes enfants dans ce pays, conserve cette vie et rends-moi la santé afin que je puisse m'employer vaillamment à ton service. Mais ici encore, que ta volonté soit faite et non la mienne. Seigneur mon Dieu, bénis mon peuple et sauve ton héritage. Préserve ton peuple élu d'Angleterre. Ô Dieu, défends ce royaume de toutes les erreurs de la papauté. Maintiens ta vérité afin que moi et mon peuple nous puissions bénir ton saint nom. Ainsi mourut Édouard VI à l'âge de 16 ans à peine. La couronne revenait de droit à la sœur d'Édouard, Marie, fille d'Henri VIII, et de sa première femme, Catherine d'Aragon. Mais la sachant catholique très bigote, son frère sur son lit de mort, avait exprimé le désir de lui voir succéder une de ses cousines, Jane Grey, qui avait adhéré de cœur aux doctrines évangéliques, et très cultivée, adressait à Bullinger, le successeur de Zwingli, des lettres en latin conservées à la bibliothèque de Zurich dans lesquelles elle demandait conseil et direction sur les principes du christianisme. Mais la noblesse anglaise, tout en éprouvant une vive sympathie pour cet arrangement, refusa de l'accepter. Marie monta donc sur le trône et n'hésita pas à condamner à mort Jane Grey, dans laquelle elle voyait une usurpatrice et une hérétique. L'épreuve produisit ses fruits bénis dans le cœur de l'infortunée jeune femme. Elle n'avait que 20 ans et venait de se marier. Sa foi, jusqu'alors chancelante, s'affermit à tel point que, dans son cachot, elle écrivit à ses amis des lettres d'adieu, animées d'un merveilleux esprit de renoncement à tout ce qu'elle laissait derrière elle. Elle rendait aussi un témoignage touchant à l'amour de son Sauveur pour elle. À l'une de ses sœurs, elle écrivit, en lui léguant son Nouveau Testament grec, « Ma chère Catherine, je t'envoie un livre qui, bien qu'il ne soit pas revêtu d'or, est plus précieux que toutes les pierres les plus rares et du plus grand prix. C'est le livre de l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. C'est sa dernière volonté. C'est son testament qui nous a laissé à nous, pauvres et misérables pécheurs, que nous sommes dans notre nature première. » Il t'enseignera le chemin de la joie éternelle. Fais comme le serviteur qui veille, afin que, quand viendra le jour de la mort, tu ne sois pas trouvé sans huile, comme les vierges folles. En ce qui concerne ma mort, réjouis-toi, comme je le fais, ma très chère sœur. Je suis assuré qu'en perdant cette existence mortelle, j'en revêtirai une éternelle incorruptible. Au nom de Dieu, je t'exhorte à ne jamais te relâcher de la vraie foi chrétienne. Si tu renies la vérité pour prolonger ta vie, le Seigneur te reniera aussi. Si, au contraire, tu t'adresses à lui, s'il le juge à propos, il prolongera tes jours pour ta consolation et sa gloire. Au nom de la reine Marie Tudor, le peuple anglais a accolé avec raison l'épithète de la sanguinaire. En anglais, c'est Bloody Mary. De nouveau, la persécution sévit avec rage, des centaines de victimes périr par le feu ou sur l'échafaud pendant les 5 années de son règne. Parmi ces martyrs, pour le nom du Seigneur, il faut retenir les noms de Latimer, un vieillard de 84 ans, un des prédicateurs les plus puissants et les plus bénis de son temps, et celui de Ridley, son ami intime. On les attacha ensemble au poteau. Au moment où le bourreau allumait les fagots, Latimer se pencha vers son compagnon de souffrance et lui dit d'une voix si nette que toute la foule l'entendit. « Aie bon courage, mon cher Ridley. Comporte-toi en homme. En ce jour, nous allumons un flambeau si brillant que, Dieu voulant, l'Angleterre ne le verra jamais s'éteindre. » De graves menaces pesaient également sur Cranmer, qui avait été pourtant le conseiller sage et hautement apprécié d'Henri VIII, et de son fils Édouard VI. Bien qu'il crût de plein cœur au salut par Christ, il avait longtemps hésité à confesser sa foi. Il craignait trop de se compromettre, aimait trop les solutions moyennes qui donnaient des demi-satisfactions à chacun, mais évitait les positions nettes et franches. Sous Édouard VI, il avait pourtant suivi une ligne de conduite tout à fait favorable à la réforme. Maintenant, très âgé, accablé d'infirmité corporelle, il se laissa éblouir un instant par les brillantes promesses de la nouvelle souveraine, succomba à la tentation et signa un acte de soumission au pape et à Marie Tudor. Mais il se ressaisit presque aussitôt. Triomphant, les papistes prétendirent exiger de lui qu'il lut lui-même, publiquement, le texte de sa rétractation dans une des églises d'Oxford où avait eu lieu son procès. Mais il déçut leur attente. Le prisonnier s'avança, entouré de prêtres et de gendarmes. On l'avait vêtu d'une méchante robe et coiffé d'un vieux bonnet. Son visage défait laissait deviner les rudes combats d'une conscience chargée et pressée de rendre de nouveau un éclatant témoignage à la vérité. Dans la chair, un des tenants de la papauté ouvrit la cérémonie par une prédication dirigée contre l'hérésie et exaltant le bonheur de ceux qui la rejetaient. Puis il s'adressa à l'ancien archevêque de Canterbury et l'invita à exposer le changement qui s'était opéré en lui afin d'ôter tout soupçon à ses auditeurs et pour que tous reconnussent qu'il était maintenant en réalité un catholique romain. Le vieillard prit aussitôt la parole. « Mes chers auditeurs, s'écria-t-il en se tournant vers la foule qui remplissait le vaste édifice jusque dans ses derniers recoins, « je vous supplie tous de prier Dieu pour qu'il lui plaise de pardonner mes péchés. Il y a une chose, surtout, qui me cause une extrême douleur. Je vous la dirai. Avant tout, prions. » Après une prière mêlée d'abondantes larmes, Cranmer reprit, « J'en viens maintenant à ce qui, plus que tous les autres péchés que j'ai commis, me tourmente le plus cruellement dans ce monde. C'est d'avoir signé de ma main l'écrit qui m'a été présenté. Sans aucun doute, je l'ai fait contre la vérité et contre ma conscience. Je pensais, par ce moyen, éviter la mort et prolonger ma vie en ce monde, en ce misérable monde. Mais maintenant, je proteste que je révoque et annule tous les écrits que j'ai faits et signés depuis le jour de ma dégradation. Je les désavoue d'ores et déjà totalement. Quant à cette malheureuse main qui m'a servi à signer cette méchanceté contre ma conscience, je l'avoue à être brûlée avant les autres membres. Le pape, je le tiens pour l'ennemi du Christ et même pour l'Antichrist. Je déteste toute sa doctrine comme fausse et toutes ses erreurs comme pernicieuses et contraires à la parole de Dieu. À l'ouïe de ce langage, la stupéfaction fut à son comble. Les chrétiens se réjouissaient et bénissaient Dieu. Les catholiques grinçaient des dents. Bientôt après, le vaillant témoin de Jésus-Christ fut entraîné au supplice, à l'endroit même où Latimer et Ridley avaient souffert la même peine. Quand il vit les flammes s'élever, il étendit tant bien que mal sa main droite en s'écriant à haute voix, « Mais indigne, mais indigne, Les bourreaux eux-mêmes étaient émerveillés de voir son courage. Ses souffrances ne durèrent que peu d'instants. On l'entendit dire encore, comme tant d'autres martyrs, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Et son âme fut recueillie auprès du Seigneur, absent de corps et présent avec le Seigneur. À la suite de son mariage avec Philippe II d'Espagne, un des pires adversaires de la Réforme, le court règne de Marie Tudor entraîna l'Angleterre au bord de l'abîme. Elle eut pour successeur sa demi-sœur Élisabeth, fille de Henri VIII et de Anne Boleyn, dont l'avènement amena en Angleterre un changement radical et définitif au point de vue religieux. La nouvelle souveraine joignait à une vaste capacité naturelle des connaissances fort étendues, mais aussi un reste de cet instinct cruel et tyrannique, funeste héritage de son père. Élevée dans les doctrines de la Réforme, elle ne les avait apprises que par son intelligence. Son cœur y restait indifférent et elle conserva, sa vie durant, un goût prononcé pour l'apparat du culte catholique. Néanmoins, elle comprit tout ce que cette religion avait de répugnant pour la très grande majorité de ses sujets. La persécution perpétrée par Marie avait aliéné à la couronne presque tout ce que l'Angleterre composait d'hommes et de femmes éclairés. Aussi, par simple bon sens politique, puisque c'était le vrai moyen d'assurer son pouvoir, Élisabeth se prononça catégoriquement en faveur de la Réforme. Mais deux lois, qui ne reflétaient que trop les tendances autocratiques de la souveraine, risquèrent de compromettre l'avenir du pays. Par la loi de suprématie, le souverain était déclaré chef suprême de l'Église, que ce fût un roi ou une reine. La loi d'uniformité fixait le rituel avec obligation pour tous de s'y conformer. Les formes du culte, la liturgie, tout le service divin doivent être les mêmes d'un bout à l'autre du royaume et ce rituel comporte beaucoup de formes extérieures empruntées à celui de l'Église romaine. Aussi, ce césaro-papisme provoqua de vives résistances de la part des adversaires de la Réforme, mécontent de ne plus diriger les esprits et de la part des réformés eux-mêmes qui estimaient beaucoup trop importantes les concessions faites à l'ancien culte. Parmi ceux-ci, il se forma un groupement dont les membres s'intitulaient les Puritains. Beaucoup d'entre eux, proscrits lors des persécutions, avaient vécu à l'étranger, en France surtout. L'épreuve avait fortement trempé leur caractère et leur foi. Leur contact avec les Huguenots leur montra que c'est ce que c'était que d'adorer le Seigneur en toute simplicité, sans le moindre apparat extérieur. Ils furent tout d'abord profondément froissés de voir les prélats anglicans se croire obligés d'endosser, au cours du service religieux, des vêtements somptueux. Et ils résolurent de purifier l'Église, de là leur nom, de tout ce qu'ils considéraient comme mondain et comme opposé à la pensée du Seigneur. Leur résistance leur attira de cruelles persécutions. 56 d'entre eux furent jetés pêle-mêle dans un cachot où la faim, la misère en firent périr plusieurs. 3 montèrent sur l'échafaud. Les Puritains ne s'avouèrent pas vaincus, sentant bien qu'ils représentaient le véritable esprit anglais, libéral jusqu'à l'indépendance, tandis que les allures de la cour et du gouvernement rappelait trop la tendance catholique portée à imposer à tous ses principes et ses procédés. D'autres scissions se produisirent et amenèrent la formation de plusieurs groupements rivaux, entre autres celui des presbytériens, qui se rapprochaient du calvinisme et confiaient l'administration de l'Église à des anciens, puis celui des congrégationalistes, chez lesquels chaque congrégation est indépendante des autres, et ne relève que du Seigneur. Comme on le voit, aucun de ces corps religieux ne se réclame du principe posé par le Seigneur lui-même, à savoir l'unité du corps de Christ. Il y aurait beaucoup d'autres fautes, quelques-unes très graves, à alléguer contre la reine Élisabeth, mais elles appartiennent au domaine politique ou bien privé et ne s'intéressent pas au sujet qui nous intéresse. Par la bonté de Dieu, cette souveraine fut dans sa main l'instrument de deux grands bienfaits pour l'Angleterre. Elle affranchit son pays du joug de Rome. Elle mit la parole de Dieu dans les mains de tous ses sujets. Élisabeth resta célibataire. À sa mort, la couronne d'Angleterre passa à son plus proche héritier, Jacques Ier, roi d'Écosse, de la dynastie des Stuarts, qui détint le pouvoir pendant trois quarts de siècle. Cette maison avait de fortes affinités avec le catholicisme. Les liens de famille l'unissaient à la cour de France, ce qui ne contribuait pas peu à l'éloigner de la réforme. Les Stuarts ne réussissent pourtant pas à ramener leur royaume à l'ancienne croyance. Mais les puritains, surtout, furent l'objet de leur haine féroce, parce que plus que tous les autres protestants, ils voulaient suivre à la lettre la volonté de Dieu, telle qu'elle est révélée dans sa parole. Pour fuir la persécution qui se déchaîna contre eux, plusieurs de ces chrétiens fidèles quittèrent leur patrie pour aller chercher en Amérique une terre où ils pourraient vivre en liberté et rendre à Dieu le culte en esprit et en vérité qu'il attend de ceux qui lui appartiennent. Ils fondèrent la colonie du Massachusetts, au nord-est des États-Unis actuels. Cette contrée était alors absolument inculte, couverte d'immenses forêts, peuplée d'animaux féroces et d'Indiens, plus à craindre encore. Aussitôt débarqués, les colons durent défricher le sol, l'ensemencer, puis attendre l'année suivante avant de ne rien récolter. L'hiver fut extrêmement rigoureux. Aussi endurèrent-ils de cruelles souffrances. Leur foi fut mise à une dure épreuve. Le Seigneur leur aida à triompher de tout. D'autres les suivaient, toujours plus nombreux, si bien que le gouvernement anglais s'alarma de cet exil qui, il dut le reconnaître, privait le pays d'éléments excellents, travailleurs et de haute moralité. Aussi, une loi fut promulguée, interdisant toute nouvelle émigration. Au moment où elle entra en vigueur, 8 navires s'apprêtaient à partir chargés de puritains, parmi lesquels se trouvaient Olivier Cromwell et Hampden, qui furent l'un et l'autre, quelques années plus tard, les auteurs de la chute du roi Charles Ier. C'est ainsi que se réalisa pour lui la parole bien connue, « Qui creuse une tombe, y tombera ». Et la pierre retournera sur celui qui la roule. Proverbe 26, verset 27, Ecclésiaste 10, verset 8. L'Église anglicane ne prospéra pas spirituellement. L'abus des formes et de la hiérarchie étouffait la voix de l'esprit. Puis le favoritisme s'y développa au point qu'une partie du clergé n'était plus du tout à la hauteur de sa tâche. Par sympathie pour tel ou tel, on mettait à la tête des paroisses des pasteurs notoirement indignes qui, le plus souvent, grassement rétribués eux-mêmes, se déchargeaient entièrement sur leurs vicaires qu'ils écrasaient de travail et les laissaient presque mourir de faim. Mais la masse du peuple, restée fidèlement attachée à l'Évangile, déplorait cet état de choses. Des hommes éminents protestaient contre la mondanité grandissante. Le grand poète Milton s'exprimait ainsi sur son temps. Une époque est venue où Dieu a véritablement rempli la terre de sa connaissance. La vraie Église du Seigneur n'est pas celle qui possède des autels, des cierges, des liturgies, des fonctionnaires portant un costume spécial et somptueux. Dieu regarde au cœur. Parmi les réformateurs de ce protestantisme languissant, moribond, il faut citer le nom de George Fox, fondateur de la secte des Quakers. Issu d'une famille très modeste, il passa par une période de lutte morale longue et douloureuse. Enfin, il céda à l'appel que le Seigneur lui adressait et se mit à parcourir l'Angleterre, prêchant la repentance par la foi en Jésus et enseignant que Dieu n'habite pas des temples faits de mains, que ce qu'il cherche dans l'homme, c'est un cœur régénéré par la puissance de l'Esprit-Saint. Il prescrivait une morale sévère, interdisait la science et l'art, le serment, le service militaire, l'asservissement à la mode. Il proclamait en même temps l'égalité de tous les hommes, défendait d'enlever son chapeau devant qui que ce soit, même devant le roi, ordonnait le tutoiement à l'égard de tous. Les Quakers suivent encore aujourd'hui la plupart de ces règles. On les reconnaît à leur costume très simple, fait invariablement de draps gris-brun. Sur d'autres points, Fox et ses partisans commirent des exagérations regrettables. Ils reconnaissaient que dans le culte auquel tous doivent participer, il faut attendre une direction de l'esprit avant de parler. Mais selon eux, cette influence doit se manifester extérieurement par une sorte d'agitation convulsive, un tremblement de tout le corps, d'où leur est venu le nom de Quaker, mot qui signifie les trembleurs. Mentionnons encore le nom de William Penn, un de leurs adhérents les plus dévoués. Il hérita de son père une fortune considérable qui lui permit d'aller s'établir en Amérique avec un certain nombre de Quakers. Il fonda ainsi la Pennsylvanie, qui devait former un des États des États-Unis. La capitale se nomme Philadelphie, qui veut dire amitié fraternelle. Alors, c'est un des principes fondamentaux de la secte. Cette contrée, jusqu'alors déserte, devint un asile largement ouvert à tous les persécutés. Les Quakers se signalent encore maintenant par la rigueur de leurs principes et par l'amour chrétien qu'ils déploient soit entre eux, soit vis-à-vis de tous les hommes. Au cours de la guerre de 14-18, comme leurs convictions leur interdisaient le service militaire, ils firent néanmoins preuve d'une activité bienfaisante en fondant des hôpitaux et en créant toutes sortes d'institutions destinées à soulager les hommes en arrière du front. Par leur ferveur spirituelle et par leurs mœurs pures, ils ont été un élément de vie au sein de l'Église sur son déclin. Alors, j'ai mis quatre applications. La première, l'histoire de la Réforme en Angleterre nous montre l'absolue vérité de cette parole de Dieu. Quand on lit dans Genèse 50-20, c'est lorsque Joseph avait fait remarquer à ses frères que leur intention de lui faire du mal, le Seigneur l'avait transformé en bien. Ça dit dans Genèse 50-20, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Alors, Dieu utilisa les innombrables péchés du roi Henri VIII pour libérer graduellement son peuple du joug catholique romain et pour faire avancer la vérité évangélique du salut et l'amour des Saintes Écritures en Angleterre. Deuxième application, une fois de plus, nous apprenons que c'est une grave erreur que de vouloir que la foi chrétienne devienne la religion d'État. Troisième, apprenons que les héros de la foi se rencontre dans toutes les couches sociales de la société. Gens du peuple, intellectuels, rois et reines. Quatrièmement, observons que les puritains jouèrent un rôle extrêmement important dans la protection de la foi biblique en Angleterre et que leur exil de ce pays contribua à la fondation des États-Unis. Que notre grand Dieu soit béni, loué et adoré pour sa sagesse dans le déroulement de l'histoire. Amen.